Interview.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, Ismo sur les ondes de RDIWA. Et pour l'interview du jour, je suis avec Pablito Zago, artiste peintre illustrateur. Bonjour Pablito.
Salut Ismo.
Nous sommes ensemble parce que tu proposes une exposition au Baraki, qui est donc dans la rue Camille Buffardel à Die, de tes œuvres les plus récentes, j'ai l'impression. Mmh. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter ?
Pablito Zago, je suis un artiste installé à Avignon. Je viens d'un milieu entre l'illustration et le graffiti. J'ai commencé par la peinture et j'ai eu un gros kiff il y a déjà un paquet de temps avec la pratique de la peinture avec des bombes. Je dirais plus que le graffiti, mais c'est plutôt la technique qui m'a vraiment attiré et plu. Et je navigue entre peinture, illustration, réalisation de fresques, voilà.
En regardant un petit peu ton parcours, je vois que tu as fait quand même pas mal d'expos un peu partout. Mmh. C'est-à-dire aussi bien à Aix-en-Provence, à Avignon, de là où tu viens, mais aussi en Amérique centrale ou plein d'endroits à travers le monde. Comme ça, on sent que le voyage nourrit profondément ta création et ton inspiration. Tu peux nous en parler un peu plus de ça ?
Ouais, j'ai eu la chance de voyager assez tôt et de partir au Mexique. Assez tôt, je devais avoir 16-17 ans, un voyage scolaire en plus, c'est ce qui est assez drôle. Et je pense que ça a été un point de départ pour un goût tout particulier pour le voyage. Et après ce voyage-là, je n'ai pas arrêté de bouger solo ou avec mon ami. Et voilà, du moins, j'ai beaucoup voyagé. Ça nourrit une passion pour le voyage, pour les motifs, pour les cultures, pour voilà, qui a vraiment, je pense, nourri tout mon alphabet graphique. Et voilà, ça a aussi créé une véritable passion pour les masques et qui fait vraiment partie de mon travail. Alors, c'est pas ce qu'on verra le plus sur l'expo que je présente au Baraki, parce que c'est encore un nouveau truc. On en parlera peut-être après, mais. J'ai quand même une passion, j'adore dessiner des personnages et le côté masque a toujours fait partie d'un truc assez important dans mon travail parce que y a, au-delà du côté purement plastique que j'ai toujours kiffé quand en Afrique les masques m'ont énormément plu, Mexique, Pérou, j'ai ramené des choses en papier mâché que j'ai trouvé aussi excellentes. En Asie, il y avait des trucs un peu terrifiants qui me plaisaient énormément. J'aime bien les monstres. J'aime bien l'idée, à travers les masques et les monstres, de pouvoir se cacher ou de créer une nouvelle personnalité derrière un masque. Donc voilà, c'est quelque chose qui a nourri ma peinture. Je me suis toujours décrit un peu comme ça. Je suis une éponge, et du coup, autant ce qui se passe de partout, du même en France, peut me nourrir, mais autant quand je voyage et tout, du même tout ce que je vois me nourrit, et je le revendique avec plaisir.
Tu revendiques cette influence que tu puises allègrement, soit dans tes voyages, soit peut-être dans tes rencontres.
Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que les voyages, au-delà de la symbolique que je mets parfois un peu de côté, je me nourris vraiment purement d'images. J'adore l'effet immédiat que peut créer des motifs, du tissu, des peintures et tout, sans que je comprenne tout de suite le sens. Mais tous ces jeux de couleurs, de symboles m'attirent énormément.
Ton exposition actuelle au Baraki, ça s'appelle Palissade. Mmh. C'est bien ça, hein ?
Ouais, tout à fait.
Il y a en plus de toute cette explosion de couleurs qui apparaît régulièrement dans ton travail,
ouais.
on sent que c'est vraiment important. Il y a du volume également.
Ouais. Ben, je crois que j'ai eu, même c'est pas je crois, hein, c'est que j'en suis sûr, c'est que le gros de mon travail, c'est quand même de réaliser des fresques murales, alors souvent des très grands formats, et il y a ce côté 2D qui me plaît, hein, le mur c'est cool, mais comme la feuille de papier, moi j'adore dessiner sur papier aussi. Mais je crois que quand, en ce moment, en tout cas pour la production de tableaux et d'œuvres un peu destinées aux galeries, aux particuliers, ce genre de choses, j'avais envie de trouver une autre direction, d'autres moyens de travailler. Et bon, on y viendra peut-être, mais même, je crois que ça m'attire même d'aller vers ça, peut-être même sur les murs. Mais du coup, j'avais envie de créer du volume et de sortir de ce côté purement 2D. À Avignon, je travaille dans un atelier qui s'appelle l'atelier Shed, qui est un atelier collectif. On a pas mal de matos. On a du matos pour couper du bois, pour voilà, ce genre de choses. Et du coup, j'ai eu envie de me servir de tout ça pour sortir du côté vraiment beaux-arts de la peinture, où je vais commencer à travailler sur toile, très plat, très propre. En plus, moi, j'ai une... j'ai été graphiste, je le suis encore un peu, donc j'ai ce truc très léché, très équilibré de la peinture. Et en fait, petit à petit, j'avais besoin de sortir de ce truc-là. Et du coup, l'exposition Palissade, c'est une nouvelle tentative dans mon travail d'aller vers quelque chose qui a un peu plus de forme et qui n'est pas seulement comme un aplat de couleurs. Donc... je me suis mis à sortir une scie sauteuse, une scie à champ tournée, de récupérer du bois, parce que j'aime bien aussi cette idée de récupération, de trouver des objets qui ont déjà une histoire que je trouve dans la rue et que je me réinvente avec des bois qui sont abîmés, qui sont un peu souillés même, et sur lesquels, moi, je vais venir peindre des choses très propres, au contraire, par-dessus, en gardant ce qui fait quand même un peu mon ADN dans la peinture, c'est cette idée de couleur, de trucs... assez positif, assez enfantin, même si ça cache plein de travers et de traumas qui ne sont pas particulièrement ceux qui sautent au visage au premier abord. Mais voilà, j'avais envie de clouer, d'assembler des choses. Et le côté palissade, c'était aussi... le nom palissade, c'était un jeu, un peu une référence aux palissades qu'on pourrait peindre quand on fait du graphe et qu'on a envie de couvrir des murs. Donc voilà, c'est un jeu un peu entre tout ça. Et quand je disais que j'étais passionné par les masques, il y a aussi autre chose, c'est le côté totem amérindien, où j'ai toujours vu ça comme une superposition de cases et de personnalités qui assemblent et qui créent un personnage un peu fantasque. Et il y a dans ce truc de palissade de rajouter tout plein de bribes d'histoire sur mes tableaux et de ne pas être sur une histoire précise comme j'aurais pu faire avant avec un thème et je le représente. Et là, je m'amuse à assembler des choses. Alors, j'assemble des bouts de bois, mais j'assemble ça comme si c'était aussi des bouts de récits, de voyages aussi, parce qu'il y a encore toujours cette grosse référence au voyage. Et voilà.
C'est à la personne qui regarde un petit peu l'œuvre de comprendre l'histoire qui se véhicule dans cette œuvre-là, en fait.
Ouais, exactement. Et de toute façon, ça, c'est un truc qui est important dans mon boulot depuis le début. Même si je défends des idées ou quoi que ce soit, dans ma peinture... j'ai toujours eu envie de laisser la place à un récit personnel qu'on peut se faire sur mes peintures. Dans mon travail, je ne suis pas fan du message affirmé, politique ou poétique. Bon, je suis quand même dans une idée de poésie. Donc, l'idée, c'est de donner des... comme une poésie écrite, de donner des mots qui pourraient...
aiguiller peut-être.
Ouais, aiguiller l'imagination, et ça me suffit. Et l'idée que les gens se racontent leurs propres histoires, c'est assez important dans mon travail. Ouais.
Oui, la place de l'interprétation personnelle,
ouais,
semble prépondérante dans ce que tu proposes. Ton exposition a commencé samedi 18 juillet, donc mm-hmm. c'était il n'y a pas longtemps. Elle court jusque...
Mi-septembre.
Jusqu'à mi-septembre.
Ouais. Au-delà des œuvres qui sont présentées, je présente aussi une partie de mon travail d'illustrateur et d'impression d'art à travers des sérigraphies numérotées signées, quelques prints, voilà.
Oui, parce que Palissade, l'exposition actuelle, ce n'est qu'une des nombreuses facettes de ton travail.
Ouais, je m'ennuie très vite, donc je passe souvent d'un truc à l'autre. Aux grandes dames des galeristes qui aiment bien qu'on reste sur les mêmes choses. Non, moi j'aime bien faire plein de choses, et même dans mon travail de tous les jours, j'aime ce côté où je passe d'un truc à l'autre, c'est-à-dire que je fais pas mal de fresques, mais du coup j'ai ce travail aussi de toile et de galerie, je fais beaucoup d'illustrations papier, je fais aussi des workshops avec des écoles, des jeunes pour la création de projets de fresques dans des établissements, voilà, je fais aussi pas mal de carnets de voyage à chaque fois que je pars en voyage où je raconte mes voyages à travers un récit graphique. Voilà, je pourrais pas dire exactement ce que je fais, je suis fan de plein de choses. C'est au même titre que, par exemple, moi, la musique, c'est un truc qui me nourrit énormément, qui a presque plus d'importance que la peinture. Et je suis incapable de dire, si on me demandait qu'est-ce que j'aime particulièrement comme musique, en fait, j'aime aller de partout et pousser, chercher ce que je peux trouver de meilleur dans chaque chose.
Tu fais de la musique également ?
Ouais, j'en faisais, c'était une autre vie. Il y a longtemps, j'ai été chanteur dans différents groupes. Flying Teapot, qui était un groupe de metal fusion dub. Et après, j'étais chanteur dans un live de drum and bass qui s'appelait Supermercado. Maintenant, le seul truc que je fais un peu dans la musique, c'est que je fais un peu DJ de temps en temps. Mais c'est vraiment pour le fun. En fait, je me suis rendu compte rapidement que je dessinais mieux que ce que je chantais, donc j'ai mis la peinture en avant.
Mais est-ce que tu vois toutefois des analogies entre le travail de création musicale et de création graphique ?
Je pourrais pas te faire un récit là-dessus, mais en tout cas, c'est... La musique, c'est vraiment ma grande passion. Grande passion.
Les deux doivent se nourrir l'un l'autre,
ouais,
peut-être.
Tout à fait. Mais c'est étrange, mais mon métier, c'est le dessin et la peinture. Mais je crois que s'il y avait un truc dont je ne pourrais pas me passer, ça serait d'abord la musique.
Ah oui, c'est intéressant.
Ouais. Ouais. C'est tellement un puits sans fond. Ça me passionne de savoir que j'aurais jamais fait le tour de la musique. Et non, je suis vraiment un grand fan de musique.
Parmi tes nombreuses œuvres où on constate souvent une explosion de couleurs, des formes un peu naïves, même des fois, qui font partie de ton inspiration,
ouais.
Ça t'est déjà arrivé de peindre des musiciens ?
De peindre des musiciens, j'ai déjà dû le faire, mais par contre, il y a un truc qui m'attire en ce moment, c'est de peindre pendant des lives de musique.
Ah, en mode live peinture.
Ouais. En ce moment, alors c'est un truc, pendant longtemps, j'ai pas voulu le faire parce que ça me faisait peur. Et ces dernières années, on m'a sollicité pour réaliser des peintures en live. En fait, j'étais vraiment très mal à l'aise parce que ça me faisait énormément peur, en fait, je crois, parce que du coup, tu sais pas vers quoi tu vas aller complètement à la fin.
Puis il y a une audience qui te regarde aussi.
Ouais, il y a l'audience. Et franchement, le challenge m'a pas mal plu. Tu vois, tu parlais des ponts entre la musique et la peinture. Moi, j'ai un frère qui est musicien, qui est prof de musique à Valence, tout ça. Et du coup, j'ai un rapport aussi à la musique que lui m'a transmis. Et c'est vrai que moi, je suis fan aussi de jazz et de choses assez barrées. Le côté free jazz, le côté improvisation m'a toujours questionné. Parce que vraiment, ça me questionnait, me dire, mais comment on peut arriver à ça ? Et en fait, c'est vrai qu'il y a ce truc-là qui me plaît énormément en ce moment, c'est de savoir qu'on connaît ces gammes, qu'on a son alphabet, soit musical, soit graphique, et de pouvoir se servir en fait des choses qu'on maîtrise plutôt bien pour aller vers l'improvisation. Ça, c'est un truc qui me parle en ce moment. Et justement, ce côté perf, c'est là-dedans que ça m'attire. C'est pas ce que je considère dans l'improvisation et la perf, c'est pas de faire n'importe quoi, c'est justement de se servir de ce qu'on sait bien faire, mais se dire qu'on a un lâcher-prise pour aborder la manière dont on va dialoguer avec des mots qu'on connaît déjà. Voilà. Et je sais qu'en ce moment, c'est un truc qui me gratte un peu, quoi.
D'accord. Donc, il y a ce côté du live, de la peinture live, qui semble utiliser une technique d'improvisation parce que tu ne sais pas vraiment qu'est-ce qui va se passer.
Ouais.
Tu as une idée de comment.
Ouais, exactement.
Mais tu ne sais pas vraiment le quoi.
Tu connais ton outil, mais tu ne sais pas au bout du chemin comment ça va être au final, quoi.
Alors qu'auparavant, tu ne travaillais pas vraiment comme ça. Tu travaillais avec des idées quand même plutôt précises.
Ouais, exactement. De toute façon, par exemple, moi, sur les murales, quand je fais des murales, bon, c'est de plus en plus des commandes publiques ou des choses comme ça. Je ne vais pas mettre la faute au fait que ça soit des commandes, mais je travaille toujours sur un croquis, un dessin que je pousse ou que je ne pousse pas, mais j'ai quand même une composition qui est toujours sur un petit bout de papier. Du coup, je sais où je vais aller.
Oui, tu as un repère.
Ouais, un repère, parce que d'abord, moi, je n'ai pas envie de perdre du temps à me poser des questions quand... il m'arrive de faire des buildings même, ou des immeubles de plusieurs étages et tout, je ne peux pas être dans l'improvisation sur ces murs-là. Donc c'est vrai que c'est une nécessité de préparer mon travail. Mais c'est pour ça que j'aime bien sortir de ce que je sais faire ou ce que je dois faire pour aller vers des trucs comme ça. Mais des fois, il faut un peu de temps parce que tu vois, c'est aujourd'hui... ça fait quand même un moment que je peins. Ce côté improvisation, ce n'est pas un truc qui m'a attiré jusqu'à présent. En ce moment, là, je me dis, pourquoi pas ponctuellement essayer des choses et pourquoi pas essayer des choses avec des musiciens.
Ça semble chouette de t'octroyer cet espace de liberté pour continuer ton expérimentation.
Ouais.
Tu disais que tu faisais pas mal de fresques, c'est ça? De fresques murales, des buildings, des choses comme ça. Où est-ce qu'on peut voir ton travail?
Je pense que le plus simple, ça reste les réseaux sociaux.
Oui.
Instagram, Facebook, Pablito Zago, c'est, voilà.
Et là, il y a des photos un petit peu des différentes étapes de tes créations.
Ouais, tu peux remonter un peu loin et même, je pense, voir l'évolution du boulot. Mais c'est là-dessus que je partage l'essentiel de mon travail, ouais.
Tu voyages, tu crées l'influence de l'endroit où tu es a une importance dans ton travail?
Ouais, énormément. Bon, j'ai la chance, avec mon travail de mural, de fresque, j'ai eu la chance de voyager. L'an dernier, j'étais au Rwanda. Avant, j'ai fait 2 ans au Sénégal. Je suis parti au Mexique. Voilà. Et que ça soit à l'étranger ou en France, par exemple, quand on me demande de faire un croquis, ce dont on parlait juste avant, je précise toujours qu'il y a un pourcentage dans ma proposition où il risque d'y avoir une possibilité de changement. Parce que quand j'arrive sur un lieu, alors que ça soit architectural ou que ça soit culturel ou un truc comme ça, je ne peux pas arriver avec un dessin et me dire « ouais, bon, c'est ça exactement que je vais faire » parce que je peux être confronté, comme je disais, architecturalement à quelque chose qui empêche une lisibilité de la manière dont tu vas voir la fresque, de l'endroit où tu vas la faire, ou alors culturellement, par exemple, si je peux prendre un exemple, l'an dernier, donc, j'étais invité au Rwanda, j'ai fait une grande fresque pour l'Institut français du Rwanda, et j'avais demandé à en faire une autre, et j'en ai fait une autre sur un mémorial du génocide rwandais. Voilà, j'étais invité... J'avais fait une proposition, j'avais entendu que ce mémorial était devenu plutôt un centre d'accueil pour les enfants, pour des activités culturelles. Donc j'avais orienté ma fresque plutôt autour d'un truc très joyeux, positif autour des enfants. Et en fait, quand je suis arrivé au Rwanda, je me suis retrouvé directement dans ce lieu avec une journée anniversaire, avec des rescapés du génocide, un après-midi où je me suis pris... tout ça dans la gueule. Je connaissais l'histoire, hein, mais je ne pensais pas que ce lieu était autant chargé encore de cette histoire. Et je pensais qu'ils avaient fait un virage pour positiver l'endroit vers quelque chose de... Alors, c'est ce qu'ils avaient fait. Mmh. Mais je me suis confronté à l'histoire bien plus fort que ce que j'avais voulu lire avant et ce genre de choses. Donc, j'arrivais pas vierge quand même au niveau de cette histoire-là. Mais je me suis tellement pris une tarte dans la gueule que pendant la conférence, je me suis dit, mais jamais je vais faire ce que j'ai prévu.
Ouais,
je ne veux pas le faire. Mmh. Je suis à côté de la plaque. Et j'ai demandé aux responsables du lieu de nous voir rapidement parce que je devais attaquer 2 jours après, tu vois. Je suis resté 10 jours, j'ai fait 2 fresques. Donc, j'étais en mode...
Carburant.
En mode speed, ouais. Mmh. Mais avec grand plaisir. En plus, je bossais avec des assistants rwandais, donc c'était génial. Hein. Et en fait, voilà, j'ai eu besoin de cette discussion avec le responsable du lieu qui, lui, d'entrée, m'a dit « Mais non, c'est super que tu fasses ça. On va changer quelques... » Parce que j'avais... comme je suis fan de typographie, j'intègre de plus en plus des mots dans mes peintures. Il m'a dit « Non, on va juste revoir peut-être... des mots pour qu'on soit un peu plus en phase. Moi, j'avais mis des mots qui étaient un peu, pas bateau, mais presque. Voilà. Mmh. Et on a...
Reprécisé.
On a reprécisé le discours. Et voilà. Et je n'aurais pas pu faire... mais voilà. Je ne me sens pas tout le temps à l'aise avec ce truc-là de faire exactement ce que j'ai... Je considère que l'art urbain, l'art de rue, c'est un truc qui est donné aux gens. Au public. Moi, je ne suis pas là pour venir poser ça comme si je faisais une toile dans une galerie en disant, voilà, mon art, c'est ça. Et prends ça et après, je m'en fous. Mmh. Non, au contraire, je suis dans la rue, il y a un rapport aux gens. C'est pas que je veux lisser ce que je fais, mais je trouve que c'est quand même important de laisser une petite porte ouverte à quelque chose qui peut évoluer, changer, être modifié... ou même personnellement, toi, tu évolues en quelques temps quand tu te retrouves sur le lieu et que tu te dis, bon, ben voilà, il faut que je l'appréhende un peu différemment. Voilà.
C'est de l'art vivant, en quelque sorte.
Ouais, hein. ouais. Et même, tout est lié au vivant.
Tout art est vivant,
voilà,
presque.
Ouais, exactement.
L'art a besoin que les gens viennent, et c'est un échange, en fait.
Ouais, tout à fait.
Tu parlais beaucoup donc, de ce côté un peu urbain, art urbain. Depuis quelques temps, on te voit un petit peu dans le Diois, qui est plutôt une petite ville, donc c'est plutôt la campagne. Est-ce que ça t'influence la nature aussi dans ton processus de création ?
Ouais, je pense peut-être plus. Je crois que j'emploie le thème d'art urbain parce que c'est un peu le nom qu'on lui a donné. Mais je pense que déjà depuis plus de 10 ans. En fait, l'art urbain se développe énormément dans des zones rurales. Et ça, c'est très important au niveau des commandes et ce genre de choses. Je pense que l'art urbain n'est plus son lieu de visibilité. Aujourd'hui, c'est plus particulièrement la ville. Alors ça, c'est plutôt pour le côté exposition et représentation. Mais oui, je pense que, bah, comme on disait, hein, le vivant, je pense qu'il y a plus de choses qui me nourrissent dans un côté nature. Bon, alors moi, je reste quelqu'un qui est proche de l'urbain parce que j'adore la ville. Mais en fait, moi, j'adore les contradictions. Donc, j'ai toujours besoin des deux pour nourrir mon imagination. Voilà. Mais c'est vrai que, ben, tu vois, là, je suis venu avec ma fille. Ça fait 2 jours que je lui dis, tu sais, je pense que je finirai mes vieux jours à la campagne, quoi. Et elle me dit, ah, mais moi, j'adore la ville. Mais non, j'ai un rapport. Moi, mon père était vraiment un terrien. Je suis d'une famille d'agriculteurs, voilà. Bon, qui se retrouve, qui a fait le plus gros de sa vie pas loin de la ville. Hein, mais non, j'ai un rapport... bah après, dans mon travail, il y a un truc aussi assez floral, aussi, de plus en plus d'ailleurs. Il y a les plantes, de mes dernières toiles, c'est le planteur de graines. Bon, voilà, il y a un truc où peut-être l'âge aussi qui fait ça, je sais pas. Où avant j'étais dans un truc très urbain, très. J'ai eu un parcours aussi dans la musique électronique aussi qui fait qu'il y a peut-être ce truc aussi qui faisait tout un microcosme autour de la ville, de quelque chose de brut, d'un peu violent aussi qui nourrissait aussi mon imaginaire aussi à ce moment-là. Et j'ai envie d'aller vers quelque chose de plus apaisé en ce moment. Et peut-être qui fait aussi qu'il y a ce truc d'aller de retour à la terre.
Vers le végétal.
Ouais.
Le minéral, toutes ces choses.
Ouais, les matières. Bah, tu vois, palissade, c'est que de la récup, c'est que du bois quasiment.
Ah oui.
Donc oui. Ouais,
et le bois, sa vie, avec la chaleur, l'humidité.
Et tu vois, par exemple, bosser à la scie sauteuse et couper du bois, quand tu fais ça, au-delà de travailler sur un matériau qui est noble, il y a une odeur aussi de résine qui se déclenche quand tu coupes et tout. Et ça, j'adore en ce moment, quoi, j'adore.
Aux auditeurs que je suis avec Pablito Zago, peintre illustrateur, qui propose une exposition au Baraki jusqu'à la mi-septembre. Si vous prenez cette émission en cours, sachez que nous avons la chance, Adi, de pouvoir avoir une petite exposition de Pablito Zago, qui est quand même un artiste de renommée, hein, j'ai envie de dire, de renommée internationale même. Donc c'est un honneur pour nous d'avoir ton exposition au Baraki.
Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a d'autres artistes peintres qui t'influencent dans ton travail ?
Alors ça, c'est vraiment une question où j'ai beaucoup de mal à répondre à chaque fois.
Ouais.
Mais je suis pas vraiment le grand fan de peintres. Je pense que je le suis plus dans la musique. Mais quand même, il y a un artiste que j'aime particulièrement. C'est Ernest Pignon Ernest, que j'ai déjà entendu en plus sur des podcast qui a une sorte de douceur dans l'explication de son travail. Et en fait, j'aime bien ce gars, au-delà de la beauté de ce qu'il fait. Il a travaillé autour de Caravage, des choses comme ça. C'est un mec qui a posé des choses dans la rue avant que le mot street art existe. Et en fait, j'aime ce gars aussi pour ça, parce qu'il était là avant que ça devienne une mode et qu'on dise « Ah ouais, le street art, le graffiti, blablabli, blablabla. » En fait, moi, je me fous un peu des étiquettes depuis toujours. C'est pour ça qu'on emploie ce mot « peintre-illustrateur ». Je préfère parler de peinture et d'illustration parce qu'après, pour moi, c'est le matériau sur lequel je vais peindre qui fait que la dimension autour de mon travail change. Mais au départ, je fais que des dessins et de la peinture. Après, je le fais en grand sur un mur, je deviens graffeur ou street artiste, mais bon, c'est la peinture et l'illustration. Et Ernest Pignon Ernest, du coup, il est arrivé à un moment avant qu'il y ait tout ce langage à la mode d'art urbain et tout. Et du coup, j'aime bien sa manière de parler de son travail, j'aime bien son travail, et j'aime bien ce culot qu'il a eu assez tôt d'aller mettre des choses dans la rue. Je conseille, bon, c'est une star, mais si vous connaissez pas Ernest Pignon Ernest, allez jeter un coup d'œil. C'est quand même absolument génial, et c'est un mec qui maintenant est installé, je crois, autour du Mont Ventoux, parce que c'est un fan de vélo et qui fait énormément de vélo. Mais c'est, pour moi, c'est le GOAT de la peinture. C'est un mec que j'adore. Ouais. Et après, s'il y a quand même parce que Ernest Pignon Ernest, c'est pas mon inspiration artistique. Mais j'ai quand même un grand plaisir à regarder les œuvres de Hervé Di Rosa, de Sète, parce que pour moi, c'est quelque chose qui, par contre, pour le coup, est assez proche de mon travail. Bon, déjà, il y a ce rapport à la couleur, il y a ce rapport au voyage.
Et un côté naïf petit peu aussi.
Naïf, hein. Et il y a surtout un truc qui est assez important, et c'est aussi peut-être un bâton dans les roues que je me suis mis, parce que dans l'art contemporain, c'est pas ce qui est primé d'abord, mais c'est de mettre de l'humour dans l'art. C'est pas le plus vendeur de faire ça, quoi. Et lui, il a toujours mis beaucoup d'humour. Il y a des trucs un peu débiles, avec des personnages un peu débiles. Et j'ai toujours adoré ce truc-là. Et je pense que ça m'a quand même un peu inspiré dans ma jeunesse, quand j'ai commencé à étudier de l'histoire de l'art. Et que, bon, c'était, en plus, c'était vraiment mes contemporains, tu vois. C'était un mec, c'est un mec qui est encore en vie, c'est un mec qui n'est pas... beaucoup, beaucoup plus vieux que moi, mais c'est vraiment des choses qui m'ont vraiment marqué, ouais. L'école sétoise, on va dire, entre Combas et Di Rosa et tous ces trucs-là, ouais. Avec une narration, des histoires à raconter, et voilà.
Tout à l'heure, on a évoqué un petit peu tes voyages, où tu allais donc faire de la peinture à l'étranger. Ouais. Tu as eu l'occasion de rencontrer des artistes, donc, lors de tes voyages, et d'échanger peut-être avec eux?
Ouais. De deux manières. Déjà, j'ai la curiosité d'aller voir des expos quand je suis à l'étranger. L'artisanat aussi m'intéresse beaucoup. Et par exemple, au Sénégal, j'ai exposé il y a maintenant 3 ans au Parcours, qui était un festival d'art contemporain sénégalais, et pas que. Et je faisais partie des rares artistes blancs, je veux dire, qui venaient hors Afrique, exposés là-bas. Donc, ça m'a permis de rencontrer tout un tas d'artistes. Et après, il y a un autre truc qui me permet aussi de rencontrer des artistes, ou en tout cas des artistes en devenir, qui sont déjà artistes, hein, tout simplement, mais qui sont souvent des jeunes artistes. C'est que quand je vais faire un gros projet... je demande au maximum d'avoir des assistants avec moi. Alors, assistant, je ne suis pas Jeff Koons, c'est pas pour faire les choses à ma place, mais c'est parce que souvent j'ai des très grands formats avec un laps de temps assez court. Et en fait, d'avoir des assistants, humainement, quand tu n'es pas longtemps sur une ville, un lieu, ou alors qu'en plus tu es très concentré sur l'endroit où tu réalises la peinture, tu n'as parfois pas le temps d'être de voir tout ce qui se passe autour. Et en fait, moi, d'avoir des assistants, c'est assez génial. Des assistants, en fait, ça devient rapidement des collègues avec qui je partage la peinture, et on peut se raconter nos propres histoires par rapport à la peinture. Il y a une curiosité qui marche dans les deux sens. Et moi, je sais que, du coup, j'adore ce truc-là. Honnêtement, je produirais une exposition, mais d'ailleurs, comme j'ai fait à Dakar. À Dakar, il y avait une partie de mon boulot qui était vraiment une création de toile et ce genre de choses. J'ai besoin d'être un peu focus, solo, de ne pas être trop embêté par la discussion pour être dans mon travail. Mais sur les murs, je sais, comme on disait juste avant, comme je pars d'un croquis, je sais déjà vers quoi je vais aller. Il peut y avoir encore du mouvement là-dessus, mais j'ai quand même la base de mon travail. Et du coup, ça me permet d'être vachement plus disponible,
ouvert
pour parler avec les gens avec qui je travaille. Et je sais que c'est assez chouette et assez grisant aussi, tu vois, de voir des jeunes artistes qui se font un plaisir d'accueillir un artiste étranger pour échanger, pour voir comment ça se passe en Europe, pour voir chose qu'on a vraiment perdu en Europe, pour le coup. Il y a beaucoup plus de concurrence ici, de snobisme. Je veux pas généraliser, parce qu'il y a de très belles rencontres dans des gens qui viennent donner un coup de main, tout ça. Mais là-bas, il y a une sorte... C'est beaucoup plus frais. Il y a beaucoup plus de place à quelque chose de plus vibrant, on va dire.
spontané, peut-être,
ouais,
également.
Spontané, c'est vrai.
Tu parlais de jeunes artistes, même tout à l'heure, tu parlais de workshops que tu avais fait avec des jeunes. Du coup, cette dimension donc, de travail avec des jeunes, elle est importante pour toi. Est-ce qu'il y a une notion de transmission qui accompagne ça?
Ouais, tout à fait. Je pense que je ne pourrais pas faire que ça, parce que le côté transmission demande beaucoup d'énergie, mais j'adore le faire. Ponctuellement, j'adore le faire.
Est-ce que quand tu étais jeune et que tu commençais à te lancer... Je dis pas que t'es vieux, hein, attention.
Ouais.
Mais que tu commençais à te lancer dans ton expérience graphique, est-ce qu'il y a des artistes plus âgés que toi qui t'ont transmis des choses de la même manière que tu continues à le faire, peut-être?
Ouais, alors je dirais que au départ, c'est pas des gens plus âgés que moi, mais en tout cas, c'est des gens qui étaient pas sur ma technique picturale. C'est vrai que quand je suis arrivé dans le graffiti, à l'époque, moi, j'organisais, je faisais partie de l'organisation d'événements autour de la culture électronique, bass music, dub, drum and bass. On était bien là-dedans. On organisait un festival que tu connais.
Electro-Circus,
ouais.
C'était avec le collectif Frisson.
Exactement. Et moi, je m'occupais un peu de la programmation des artistes urbains parce que j'étais déjà dans la peinture. Et que j'avais un goût déjà particulier pour le graffiti et ce genre de choses. Et c'est vrai que là, d'avoir fait venir des crews comme DMV, c'est des mecs, quand je les ai vus bosser, et en plus qui étaient dans le partage et tout, moi, le festival terminé, la première chose que j'ai eu envie de faire, c'était d'aller m'acheter un pack de bombes et essayer de peindre. Donc... ouais, la transmission, ça compte. En sens inverse, il y a des artistes dont j'apprécie le boulot qui, plus jeunes que moi, sont venus me dire, parce que j'ai eu une petite vie d'animateur en centre social pendant 2 ans, où j'ai créé aussi des trucs autour du graffiti, parce que c'était le truc que je connaissais bien, ou des jeunes dont j'apprécie le travail et j'avais complètement oublié, me sont venus me voir en me disant, tu sais que j'ai commencé la peinture... grâce à l'atelier que tu avais fait et ce genre de choses. Donc, ça fait plaisir.
Ah ouais, c'est un beau cadeau, ça.
Ça fait plaisir,
hein.
Ouais. Et après aussi, ce que j'aime bien aussi dans le fait de partager avec des jeunes, c'est que déjà, moi, je les mets à l'aise sur le fait de bien ou de mal... souvent, on me dit « je ne sais pas dessiner ». Moi, j'ai un dessin très naïf. Donc, en fait, ça met les choses... ça met les gens très à l'aise parce que je leur dis, tu vois, si tu veux faire une main, si le personnage il a 5 ou 6 doigts et que c'est des grosses saucisses les doigts, on s'en fout. Du moment qu'on voit que c'est une main et qu'on comprend que c'est une main, c'est ça qui est important. Donc en fait, dans les workshops, ce qui est bien, c'est que tu es obligé de t'adapter au langage que les jeunes vont avoir, qui n'est pas à 100% le tien, et de trouver des biais pour créer des choses. C'est la même chose qui se passe quand il m'arrive de faire des collaborations avec d'autres artistes. C'est que, vu qu'il n'y a pas uniquement ton langage graphique qui rentre en jeu, il va y avoir celui de jeunes qui vont participer à un atelier, ou alors, là, moi, je travaille souvent avec un ami qui s'appelle Seb Bouchard, qui a un style vraiment qui n'a rien à voir avec le mien, mais en fait... les deux fusionnent bien parce qu'on a trouvé comment se parler graphiquement. Donc, ouais, c'est vrai que les ateliers, les collabs, tout ça, ça nourrit et ça fait du bien aussi à mon travail.
Et qu'est-ce que c'est l'avenir pour Pablito Zago ?
Moi, je dirais que c'est de voyager encore avec mon art parce que c'est vraiment un truc que j'adore. Là, j'ai des... je risque de partir en Bolivie. C'est des choses, je croise les doigts parce que j'aime pas parler des choses qui sont pas encore complètement signées. Mais là, pour l'année prochaine, il y a 2 pistes de voyage-travail assez riches que j'adorerais faire. Et après, je dirais que aussi de vivre de mon art, parce que de continuer à vivre de mon art, parce que c'est pas facile et c'est d'autant plus difficile en ce moment. Et voilà, parce que c'est... on dit toujours la vie d'artiste, c'est génial et tout, mais c'est pas si facile, hein, c'est pas si facile tous les jours.
Non, c'est dur. Hein.
J'exorcise tous mes démons en faisant des peintures qui sont assez joyeuses et tout, mais je suis confronté à beaucoup de difficultés tous les jours, parce que je suis seul, J'essaie de faire tourner mon, mon taf solo, je dirais presque ma petite entreprise, parce que ça, je vois aussi, c'est quand même mon gagne-pain, et il faut que j'en vive de ce travail-là. Et ça, aujourd'hui, c'est compliqué. On nous demande à nous d'être artistes, d'être aujourd'hui communicants. On nous demande plein de choses qui sont loin de...
Loin de ce processus de création.
Ah ouais, moi je rêverais de n'être que dans le créatif, mais je suis confronté à plein d'autres choses. Je ne suis pas celui qui le vit le plus mal, parce que déjà la communication, moi j'étais dans le graphisme, donc je sais un peu ce que c'est, je m'amuse avec ça. Et Pablito Zago, c'est aussi un personnage que j'ai créé, donc je le fais vivre avec plaisir. Mais la vie de tous les jours n'est pas simple avec l'art, quoi, de nos jours, quoi. Donc voilà, j'aimerais bien être plus apaisé avec tout ça. Mais je pense que malheureusement, ça fait partie du truc. Et je pense que si c'était trop confortable, je ne ferais pas la même chose.
Tu ferais de la musique.
Non, je ne pense pas. Ce n'est pas ça que je veux te dire. C'est que... le confort, être trop pépère, finalement, tu perds un peu la vibe du truc.
La niaque.
Un peu la niaque. Mmh. Donc, moi, je sais que... Moi, je suis confronté en permanence à une sorte de difficulté, même si ça ne se voit pas particulièrement dans mon travail. Moi, tous les gens me disent « Oh, c'est tellement positif ce que tu fais ». Je ne leur souhaite pas d'être dans mon cerveau. Hein. J'en chie.
Bah nous, en tout cas, ce qu'on peut te souhaiter, c'est de pouvoir continuer à t'éclater et à pouvoir être serein dans ta vie avec ton art et de continuer à nous en faire profiter.
Mais merci beaucoup.
Et c'est bien le cas de cette exposition qui est au Baraki jusqu'à la mi-septembre. C'est Pablito Zago. Allez voir son travail parce que non seulement c'est positif, mais ça fait du bien. Et vous pouvez voir les autres facettes de ton travail sur tes réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, Pablito Zago.
Ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Hein.
Merci à toi. À bientôt.